Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On l'apprenait il y a quelques jours, Mistral OpenAI français, si on peut l'appeler comme ça, envisagerait de lever quelques centaines de millions d'euros supplémentaires, une valorisation à 5 milliards de dollars. Yacine, alors tu avais mis ce sujet-là en te disant, mais qu'est-ce que ça veut dire toutes ces valorisations pour des entreprises qui génèrent très peu de revenus?
Alors je vais d'abord faire un petit disclaimer, comme on dit en anglais. Je pense que les fondateurs de Mistral font tout ce qu'il faut et très bien pour leur boîte. Maintenant, en gros, ce que moi je ne comprends pas, c'est la stratégie française derrière. Donc, c'est-à-dire qu'on veut faire de Mistral AI le OpenAI français, mais du coup on laisse des investisseurs américains venir se gaver sur les potentiels plus-values de cette entreprise.
Et Microsoft
également. Et en fait, à côté de ça, on est aussi en train de se dire, bah en fait, on force cette boîte à faire des petites levées. Je mets des guillemets sur petites levées, mais des petites levées tous les 6 mois, ce qui prend du temps en fait à l'équipe, qui prend du temps à l'ensemble de l'entreprise. Alors qu'en fait, si on veut vraiment créer un champion européen, il faut vraiment qu'on se dise, bah la France et ou les États européens se mettent d'accord et on investit 10 milliards d'un coup sur un candidat qu'on veut être l'OpenAI européen et qui va plus rapidement peut-être arriver au niveau d'OpenAI. Là, j'ai l'impression qu'on a un peu envie de rentrer dans une course, mais avec 4 tours de retard, quoi. Et mais au lieu d'essayer de vraiment mettre le turbo, bah on démarre tranquillement, progressivement, et on espère que dans 4-5 ans, on sera au même niveau qu'OpenAI, ce qui me paraît complètement inconcevable, quoi. C'est un peu lancer Bing après que Google ait lancé son moteur de recherche.
Est-ce qu'on est sûr de la vision française, franco-française de Mistral AI? Moi, je ne suis pas certaine, je ne sais pas, je pose la question. Est-ce que ce n'est pas un exit qui est recherché derrière, justement, pour faire grossir l'écosystème mondial et prendre sa part dans l'échiquier? Ce qui est une logique qu'on connaît bien dans la tech, hein, c'est une logique plus court-termiste. Moi, je pense que vu les investissements qui ont été faits, la nature des investissements et les investisseurs, la typologie des investisseurs, notamment, on le sait, les acteurs américains, tu l'as dit, ça apparaît clair que, enfin moi je mets ma main à couper qu'il y a un exit dans les 3 ans qui viennent.
Mais du coup c'est un problème parce qu'on a
par
rapport au narratif
bien sûr.
Et par rapport aussi à l'ambition française qu'on est en train d'essayer de pousser, de dire il faut des champions européens et c'est pour ça que je pense que les fondateurs font tout très bien.
Surtout qu'ils l'entraînent aux États-Unis parce qu'on n'a pas la puissance de calcul ici. Jérôme?
Non, déjà pourquoi ils vont chercher les investisseurs américains? Parce que les investisseurs européens n'ont pas suffisamment d'argent pour investir 500 millions de dollars dans une entreprise, il faut être clair, il n'y a que les Américains aujourd'hui qui ont la surface financière. On ne va pas aller chercher de l'argent. Alors la BPI va mettre de l'argent, mais ils ne mettront jamais une somme aussi importante.
Ils pourraient. Dans les faits, on a des plans à 50 milliards sur 5 ans.
Ils pourraient oser une fois au lieu de saupoudrage. C'est vrai qu'il y a parfois un peu trop de saupoudrage.
C'est pas le but de la BPI. La BPI, elle va pas miser tout sur une entreprise. Elle va pas mettre 2 milliards sur une entreprise, par exemple.
BUI, par exemple, Banque européenne d'investissement. La Commission européenne a des programmes très spécifiques.
Je pense même pas qu'ils le veulent. En fait, eux aussi, ils ont une logique où l'argent des investisseurs américains, elle est très bien parce que ça leur permet de se faire des connexions, d'ouvrir des portes qu'ils ouvrent pas, qu'ils vont pas ouvrir avec la BPI ou avec d'autres investisseurs. Et sur la volonté d'être un champion européen. Ce qui est intéressant, c'est que dès que l'IA Act a été voté, donc la réglementation européenne sur l'IA, où ils étaient vent debout contre cette réglementation, où ils ont dit ça va nous handicaper contre les Américains, il ne faut absolument pas la voter. Dès qu'elle a été votée, le lendemain, ils ont officialisé leur accord avec Microsoft. Oui. Ils ont fait entrer Microsoft dans le capital. Donc il y a quand même aussi un double discours. Est-ce qu'il y a une volonté? Je pense que eux, ils sont pas là à savoir est-ce qu'on est européen, est-ce qu'on est français. Dans l'IA aujourd'hui, de toute façon, c'est international. Toutes les boîtes sont internationales.
Il faut qu'ils engrangent
ils jouent un peu sur la carte, la souveraineté, la carte française, la carte européenne. Mais au fond, pour leur business, c'est pas important. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir de l'argent, c'est de recruter des ingénieurs et c'est de faire de l'IA qui marche.
Et encore une fois, c'est ce que je dis. Moi, de mon point de vue, je pense que les fondateurs font tout très bien. Je pense juste
tu mets la question sur.
Je mets juste la question sur la narrative. Et par exemple, le fait d'avoir un Cédric O qui est au capital de cette entreprise et qui derrière sort des millions parce que justement c'est censé être le représentant du gouvernement. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence quand même où il y a quelqu'un qui se fait léser à la fin et c'est l'État français et c'est nos impôts?
Mais c'est un super héros pour impôts. Cédric O, tout le monde le sait, maintenant c'est public et on le sait. Il a mis un tout petit billet et il a un héros. C'est un peu business as usual, j'allais dire. C'est pas si surprenant que ça.
Après, quand on parle européen, il ne faut pas oublier Aleph Alpha qui est l'équivalent allemand qui est le concurrent de Mistral. Et puis qu'on a des Lighton, on a aussi d'autres entreprises aussi.
Mais on peut laisser partir Mistral AI et j'allais dire, moi j'ai pas d'avis là-dessus, ça appartient aux investisseurs. C'est vrai qu'on peut avoir quand même des questionnements sur la question de la souveraineté qui revient partout, qui est un buzzword aujourd'hui. Et malheureusement, c'est un buzzword parce que c'est malhonnête en fait par rapport. On sait très bien aujourd'hui que les capitalisations des grosses startups stratégiques aujourd'hui sont multipolaires. Enfin, on le sait, il y a des startups très, très franco-françaises qui ont des boards à 5 continents qui sont stratégiques pour la France. On n'a pas beaucoup de problèmes à revendre l'année dernière CryptoSense qui fait des clés de chiffrement RSA, spécialiste de la cybersécurité hautement stratégique pour la France. Google via Eric Schmidt a mis un pied dedans, ils nous ont racheté, personne n'en a parlé. Mm-hmm. Donc, et après on va dire, bah oui mais la souveraineté c'est important, il y a des sujets importants. Bah, il y a quand même un double discours et il faut être clair, faut clarifier les choses.
C'est le fondement du marché aussi. Donc,
Quand ce sont des représentants politiques qui le disent, ça pose un petit souci quand même.
Mais encore une fois, sur des sujets aussi stratégiques, parce qu'on est en train de parler d'IA, on parle de chips, là on va parler après potentiellement d'interface neurale. Je veux dire, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et si on veut avoir une Europe qui est forte sur ces sujets, il faut avoir des champions, mais même limite qu'on contraint, en fait, qu'on contraint à rester européen, à rester dans le giron européen, à respecter.
Mais je veux dire. Mais c'est pas. En fait, moi je veux bien, j'entends bien ça. Et c'est même le débat quand on dit pourquoi les entreprises du CAC 40 vont chez Google ou Amazon ou Microsoft et pas chez OVH. Le débat, la souveraineté, c'est sur le papier, c'est très bien. Mais après, il y a les faits, en fait. Et pour Mistral, si Mistral veut rester forcément qu'européen, ils ne pourront pas rivaliser avec d'autres. Et avec les acteurs américains, il faut être aussi assez. Sur ça, c'est la réalité aujourd'hui.
L'idée de Marion et Yacine, c'est de dire, mais finalement, on pourrait avoir les fonds en Europe.
Si demain on avait Sodexo, LVMH, Kering, on vient d'entendre.
Ils n'ont pas 500 millions de dollars à mettre.
Il y a des fonds de family office gigantesques, des fonds de pension.
On ne peut pas investir sur des technologies de rupture.
Regarde Qtaille, tu as Xavier Niel, Rodolphe Sadé.
Mais c'est des initiatives personnelles. C'est des grandes fortunes qui vont le faire. Après, est-ce que quand tu as un fonds, tu mets autant d'argent sur une entreprise, une seule entreprise, est-ce que c'est bien aussi? Voilà, est-ce que l'État, si la BPI met 2 milliards ou 500 millions dans un Mistral, est-ce que c'est une bonne idée ou pas?
Ils font en Chine, hein, et ça marche.
Avec la Chine non plus.
Mais au bout d'un moment, il faut rattraper le gap technologique. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que on peut pas rester. Surtout, mais encore une fois, c'est qu'on a raté complètement le virage Internet. On n'a pas une seule boîte européenne qui tient la route d'un point de vue consumer grand public. Les Google, les Meta, les Apple, ils sont pas en Europe. Maintenant, là, on sait qu'il y a des nouvelles révolutions qui arrivent. Donc, je veux dire, il faut prendre des décisions qui sont un petit peu drastiques. Et alors, est-ce que c'est peut-être il y a un double effet, il y a un effet carotte et bâton. Il faut avoir peut-être plus de recherche, plus de subventions pour la recherche, faire en sorte que nos chercheurs sortent avec plus d'idées de boîtes et lancent des startups. Et c'est peut-être ça qu'on doit faire. Et c'est peut-être ça qu'on doit accompagner encore plus.
Mais c'était un peu accéléré. Hein,
oui, mais on est quand même très loin. J'en parlais là récemment. J'étais à l'AG de France Deep Tech il y a deux jours. Il y a quand même une énorme différence quand on nous explique qu'en France, quand un chercheur veut sortir avec un projet qu'il a développé de l'INRIA ou d'autres, il faut, mais c'est des montagnes de documentation pour réussir à lancer une start-up associée. Aux États-Unis, moi je connais 10 personnes.
Et on ne parle même pas dans la biotech et dans la santé.
Exactement. Donc au bout d'un moment, en fait, je ne dis pas que c'est la seule façon, c'est de contraindre. Mais juste qu'en fait, si on arrive et qu'on soutient des boîtes qui s'annoncent et qui se présentent comme des boîtes qui veulent être souveraines, qui en plus de ça en jouent et lèvent des fonds sur cette base-là, puisque BPI fait partie des investisseurs initiaux et met des sommes très conséquentes, il faut que derrière il y ait un engagement de ces boîtes-là vis-à-vis de l'Europe. Et ça, je pense que ce n'est pas absurde de le demander.
Après, il y a aussi une barrière qu'on oublie souvent dans le schéma business qu'on connaît bien, l'économie de la tech, c'est aussi le pouvoir du lobbying qui est très très puissant pour déconstruire les discussions qu'il peut y avoir dans les couloirs.
L'Europe qui, si elle voit tout ça, va dire attendez, pourquoi on met tout cet argent-là? Enfin voilà, on va avoir des... Allez, on va partir en Chine. Je vais te passer la parole, Yacine, parce que tu connais bien.
En mandarin.
En mandarin, voilà. On pourrait avec un peu de...
Il est un peu rouillé, mon mandarin, mais...
un peu d'IA, je suis sûr qu'on pourrait y arriver. Donc c'est la Chine. Alors, la société s'appelle Beijing Xingshida Neurotechnology. Alors, je ne sais pas, je pense pas, c'est pas exactement pareil que Neuralink, c'est moins invasif que Neuralink, mais en tout cas, ils lancent leur puce cérébrale pour concurrencer Neuralink. Donc là encore, alors qu'est-ce que toi qui connais bien toutes ces interfaces neuronales, Yacine, avec ta société Wizard notamment, qu'est-ce que tu en dis?
C'est toujours assez compliqué de trouver des informations sur les entreprises chinoises, donc je peux pas vous dire exactement ce qu'ils font. Par contre, je vais rester dans la lignée de ce que je viens de dire. Je pense que les interfaces neurales, c'est un sujet qui va arriver, qui arrive en fait, on parle de Neuralink, mais c'est un sujet à horizon 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Je pense qu'en Europe, on aura peut-être d'abord une législation avant de penser à faire des startups, mais dans le reste du monde, c'est bien quand même de voir qu'il y a des boîtes qui se lancent et qui sont soutenues par le gouvernement et qui sont sur des sujets finalement de pointe. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à devenir un leader à moyen terme. Donc le fait d'avoir une entreprise chinoise qui vient concurrencer Neuralink, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. pas, je me mettrai pas cette puce dans le cerveau, hein. Mais je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je pense que ça prouve que justement la partie brain computer interface, interface homme machine, interface cerveau homme machine, je sais plus comment dire.
Oui. Homme machine.
Comment?
Homme machine.
Mais interface homme machine, c'est général.
Cerveau.
Brain computer interface. Voilà. Interface cerveau machine peut-être. Pour moi, c'est important que justement il y ait des initiatives locales qui se lancent et qui soient pas toutes centralisées aux US, parce qu'en fait c'est tellement celui qui va être important le jour où cette technologie-là va arriver à maturité, que si jamais on a que le choix entre Neuralink, Synchrone et la Brain Chip de OpenAI, on va se retrouver dans une situation très compliquée.
Synchrone, c'est celle dans laquelle Bill Gates et Amazon ont mis.
Sur Bill Gates, je sais plus, mais oui. Enfin, Synchrone, c'est le concurrent. Ouais, Paradromix qui pose plus avec l'armée et Neuralink aujourd'hui dans les implants invasifs.
Marion, sur cette histoire d'implant.
J'avoue que ça me fait peur. Moi, je suis très très honnête. Alors, dans le domaine de la santé, oui, mais alors très encadré, quoi. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que là, c'est une science qui est complètement ouverte et on parle quand même d'enjeux qui sont vachement importants, quoi. C'est en termes d'éthique, en termes de même de danger. On le sait bien, ça a été très dangereux les premiers essais. Donc,
en plus, on a un Elon Musk qui lui pousse la chose.
Voilà, qui est pas tout à fait raisonnable.
Les excès que l'on connaît de sa part, même si il a plutôt de la réussite.
Ouais. Ce qui me fait peur, c'est l'espace marketing que ça représente derrière. Je dis pas que ça le sera, mais enfin, on sait bien aujourd'hui que tout ce qu'on peut connecter peut devenir demain marchandisable. Moi, ça me fait peur. Je me dis jusqu'où ça va aller demain, à quel moment on va pouvoir être souverain dans nos corps. Voilà, souverain dans nos corps. C'est un peu ça.
Jérôme, ça t'inquiète, ça te...
Non, mais moi, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer, en fait. Et après, bien sûr, il y a toujours des inquiétudes et à voir comment ça se passe. Et quand on parle d'Elon Musk, c'est très invasif, donc il y a des problèmes aussi de santé publique et des choses comme ça. Mais
là, ils l'ont testé alors sur une personne, mais voilà, qui avait de gros soucis de paralysie. Enfin voilà, on est quelqu'un qui déjà souffrait beaucoup, donc
il est encore vivant,
oui. Mais qui voilà avait peut-être un moyen de s'en sortir. Il y a eu quelques progrès, mais
Après ce qu'a annoncé, l'annonce qu'a fait Neuralink, je crois que c'est pas, enfin je passe tout en contrôle, mais c'est pas très révolutionnaire en fait, la façon de pouvoir contrôler un ordinateur avec la pensée.
Non, on parle des chercheurs, hein, l'INRIA, ils ont déjà des choses avec les électrodes. On peut...
ce que Neuralink propose, ça va beaucoup plus loin de soigner Alzheimer, soigner la paralysie, des choses comme ça. Et là, c'est là où on va voir si ça va marcher ou pas. Et à voir, moi, je n'ai pas de compétences techniques pour savoir si c'est possible ou pas.
Peut-être là où je reviens à ce que dit Marion, c'est que je pense qu'effectivement, c'est hyper important que ce type de technologie soit très bien encadré, mais pas forcément. Je pense que pour moi c'est un peu des logiques comme le nucléaire.
Pas forcément régulé.
Au bout d'un moment, il faut que ça soit. C'est pas des consortiums locaux ou régionaux. Nous, on essaie de suivre un peu avec Wizir. On est sur tous les chartes neurosciences en Europe. On est sur la même chose aux États-Unis pour essayer d'être le plus tôt possible engagé dans un processus où on définit le cadre un peu de ce que ça veut dire qu'une innovation éthique. Et je pense que c'est des choses qui, pour moi, à mon sens, devront être régulées à l'échelle mondiale, hein, et pas juste à l'échelle locale ou nationale. Mais du coup, effectivement, ces technologies vont arriver. Et donc, pour moi, c'est non seulement une histoire de définir le cadre, peut-être légal et éthique, mais il faut aussi, effectivement, se dire que c'est OK de développer ces technologies-là et de soutenir des champions locaux, parce que sinon, encore une fois, on va se retrouver à devoir utiliser les chips de deux pays qui ont poussé cette innovation-là. Quoi.
En plus, je ne sais pas si on mettra plutôt la Neuralink que la puce chinoise.
Ou un combo des deux, comme ça, en gros, c'est...
On verra tout ça. Allez, tiens, on va revenir en France. Alors, c'est Emmanuel Macron, je vais reprendre ses mots. Est-ce qu'on envoie un enfant dans la jungle? Et Emmanuel Macron plaide pour une majorité numérique à 15 ans en Europe. Donc, davantage... Alors, évidemment, ça suit toutes les effets que l'on a entendus, dont certains tragiques, hein, l'utilisation des réseaux sociaux, le harcèlement, enfin, tout ce qui peut y avoir, les mauvaises influences qu'on peut avoir sur ces réseaux, le temps que l'on peut passer, le temps où on peut s'abrutir aussi, mais ça, c'est les adultes aussi. Mais voilà, pour des jeunes... On perd un peu dans la culture générale, on perd dans la lecture, enfin voilà, on a tout un tas de... Il y a des choses évidemment bénéfiques, mais il y a aussi beaucoup de choses seulement un peu comme dans la jungle, hein. Dans la jungle, il y a des choses merveilleuses, mais aussi des serpents, des fauves, et des plantes qui peuvent nous tuer. Qui veut commencer sur ce sujet-là?
Sur Marion. La majorité numérique, c'est un vieux débat. Hein. Mmh. On a eu plusieurs fois des débats sur à quel âge on donne un smartphone à notre enfant.
Déjà, si c'est possible.
Exactement.
Techniquement.
Techniquement, lequel? Est-ce que c'est un smartphone ou un téléphone à touche? Enfin, c'est un débat qui a quand même une dizaine d'années sur le sujet du critère âge.
C'était sur l'accès au site porno, notamment. C'était
oui,
ça,
mais
un
en
peu
fait,
les premiers...
Comment on va mettre ça en application? C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui... L'intention est bonne. Je pense que la question se pose clairement. Moi, j'ai un enfant de 14 14 ans, une de 18, donc je suis bien dans le sujet de toutes les mamans et de tous les papas qui jouent un peu la police, quoi, hein, donc c'est qui surveillent. C'est pas tellement l'âge, en fait, c'est plus comment on va mettre en application une bonne intention, sachant qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'accès à n'importe quel contenu aujourd'hui se fait très facilement, même pas besoin de hacker. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas encore contraint les grands éditeurs de porno, par exemple, de à pouvoir mettre site, en place des certifications d'authentification particulières, etc. Mmh. Donc, il faut à nouveau, mais le combat est rude, plutôt s'attaquer au process d'authentification que à des critères qui, en plus, vont être disparates selon les pays.
Est-ce que l'identité numérique, là, comme on imagine un jour tout savoir, est-ce que ça pourrait être une solution ? On est anonyme derrière cette identité numérique. On aura un numéro, un peu comme un numéro de sécu ou un code, enfin quelque chose d'alphanumérique. Et puis derrière, alors on aurait nos datas, mais en tout cas, lorsqu'on se promènerait sur les sites, on n'aurait pas moyen de. On verrait si on a plus de 18 ans ou pas.
Je suis un peu d'accord avec Marion encore une fois sur le sujet. C'est-à-dire que je pense que c'est très compliqué aujourd'hui d'interdire l'accès à quoi que ce soit. Mais ça, c'est une histoire de plusieurs millénaires. Je veux dire, on a même à l'époque, si jamais vous vouliez accéder à des magazines un peu coquins, vous pouviez le faire. Il fallait trouver quelqu'un qui va. Donc, la logique de d'interdire l'accès à du contenu existant, j'ai du mal à voir comment on fait ça. La logique ensuite, qui me paraît moi la plus saine, mais qui est la plus compliquée à mettre en place, c'est une logique d'éducation. En fait, c'est ça qu'on essaie de faire vraiment. C'est plutôt d'essayer d'éduquer les jeunes à ne pas consommer tel ou tel contenu ou à comprendre l'impact que tel ou tel contenu peut avoir sur eux. Mais la protection par l'interdiction, en fait, ça donne encore plus envie d'y aller d'une certaine façon. Donc j'ai du mal à comprendre comment le.
Mais est-ce qu'on pourrait pas faire. On parlait tout à l'heure de Mark Zuckerberg qui teste avec ses lunettes, qui teste avec son, avec son métaverse. Est-ce qu'on pourrait pas y aller aussi en testant allez, maintenant c'est obligatoire, il faut la carte bancaire. Et puis ça va râler, on va dire c'est pas exactement ça, mais au moins c'est déjà un premier pas et ça va déjà freiner 60-70% des excès.
Mais en fait, les solutions techniques elles sont difficiles à mettre en place. Et au Royaume-Uni par exemple, il y a une loi qui a été votée il y a plusieurs années pour interdire, pour vérifier l'âge pour accéder aux sites porno. Ça n'a jamais été mis en place en fait parce qu'il n'y a pas de système aujourd'hui qui existe. Tous les systèmes ont des inconvénients en fait. Et il y aura toujours un système qui ne va pas marcher parce que pour tel cas de figure, donc c'est assez compliqué sur l'interdiction aussi. Après, c'est vrai que majorité numérique, ça veut dire quoi Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'école, on vous encourage à aller sur les ordinateurs aujourd'hui, on vous encourage à utiliser les écrans, on vous encourage à utiliser l'IA.
Les sixièmes, les exercices, c'est sur YouTube,
Donc on a un peu un double discours en disant oui, il faut protéger les enfants parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est. Mais bon, après, les écrans aussi, et puis il faut pas rater le virage de l'IA, il faut former à coder, il faut former. Donc c'est assez. C'est un double discours en fait.
Frédéric, toi, tu es dans la tech depuis de nombreuses années. On a déjà eu plein de conversations autour de ces sujets-là, mais il faut quand même revenir. Je veux pas dire que on pourra pas refaire l'histoire, mais ce qui est certain, c'est que quand je ne sais plus quel ministre dit c'est le Far West le numérique, c'est pas totalement faux. Tout s'est construit quand même un petit peu après le. Moi, je me rappelle, on faisait payer les CD-ROM chez Club Internet, et c'était finalement la première barrière à l'entrée. Et si on payait pas son forfait et son CD dans l'ordinateur, on n'avait pas Internet. Et quelque part, bon, c'était il y a très longtemps. Quand tu disais la carte bancaire comme point de porte d'entrée, et donc quelque part d'une série de bons comportements, j'espère. Le web est tout sauf standardisé en fait. Tout le monde a fait un peu ce qu'il a voulu. Il n'y a pas de standardisation aujourd'hui. D'ailleurs, l'Inde a son propre système d'ID, qui est d'ailleurs assez controversé, mais qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a bien envie d'ailleurs de reprendre un peu le modèle indien. C'est une question qui revient en permanence. Mais nous, on a nos garde-fous. Il y a la CNIL, il y a toutes les instances qui disent oh là là, attention. Si demain on a un identifiant unique, on risque de faire des croisements de bases de données. Ça va pas du tout. Alors qu'en fait, il y a quand même un vrai sujet qui se pose, parce que le Far West numérique, avec tout ce qu'il a de meilleur et génial, et tout ce qu'il a d'horrible, on ne pourra plus le standardiser, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui collectivement pour essayer de trouver des systèmes standardisés c'est possible que demain
Après, il y a aussi peut-être qu'on doit attaquer application par application. Là, aujourd'hui, on conteste les réseaux sociaux parce qu'il y a du harcèlement, les sites porno, c'est peut-être qu'il faut prendre aussi domaine par domaine, quoi, plutôt que chercher à dire, au global, je mets mon grand parapluie Internet et c'est un peu toutes les applications. Et du coup, comme tu dis, on n'a plus accès à YouTube pour aller voir des fichiers de musique que la prof de musique a demandé ou des exercices de maths, etc. C'est peut-être ça aussi, on a un peu de mal aussi à.
personne n'a intérêt à le faire. Apple n'a pas intérêt à le faire. Android n'a pas intérêt à le faire. Les plateformes n'ont pas intérêt à le faire. En fait, c'est ça, quand je dis Far West derrière. Personne n'a touché au sujet. Parce que, encore une fois, il était question d'un web. Le web s'est ouvert.
Eh bien, chérie, Far West,
c'est la régulation.
C'est une cavalerie.
Et c'est qu'il n'y a pas de volonté de régulation aussi.
Ouais. Non.
C'est ça. On a vu, par exemple, en Floride, il y a une loi qui a été votée il n'y a pas très longtemps pour interdire les réseaux sociaux au moins de 13 ans et puis au moins de 16 ans, il faut l'autorisation. Mais ça fait pas, ça fait pas d'unanimité, en fait. Et donc, tant qu'il n'y aura pas une volonté politique, et c'est difficile d'aller dire à des futurs gens qui vont voter dans 3-4 ans, ah ben moi, je vous interdis d'aller sur TikTok, par exemple, aujourd'hui, on l'a vu aux États-Unis, enfin, des choses comme ça. Donc, c'est.
Ah oui, si c'est Gabriel Attal qui signe ça et qui va venir dans trois ans aux élections, dire « Ah tiens, c'est lui qui nous a bloqué pour TikTok et Facebook ». Donc là, voilà, on n'aura peut-être pas de solution, en tout cas dans l'immédiat. Enfin voilà, il faut peut-être attaquer petit bout par petit bout. Mais
éducation, t'as raison. Éducation.
Et
éducation.
Des parents aussi, peut-être aussi, rappeler aux parents.
Mais les parents, parfois, ils sont dépassés. Quoi.
Oui. Les parents, parfois, sont accros aussi. Donc,
aussi,
c'est
ça. Aussi.
Et c'est les parents qui ont la carte bleue, hein, quand même.
C'est vrai.
C'est un peu le souci. Tiens, toute dernière petite news, parce que je la trouvais assez amusante. Je sais pas, en tout cas, je trouvais l'idée, pourquoi on n'y a pas pensé avant. C'est Android, hein. La publicité pourrait s'inviter sur les écrans de verrouillage de certains smartphones. Plutôt une bonne idée, ça, non?
Ça dépend pour qui, exactement.
Ouais, c'est vrai qu'on le disait, Amazon le fait déjà sur ses Kindle. Sûr. Il passe de la pub, tout ça, dans la des notifications. Là, voilà, on aurait son écran, et plutôt qu'on aurait une pub qui apparaîtrait.
Pourquoi c'est une bonne idée business, et après, toujours pareil. Quoi. Je
pense l'utilisateur, qu'est-ce qu'il en retire?
Son
écran qui s'allume,
temps,
ouais, peut-être.
Après, ça permet de re-augmenter les prix à la Netflix. Quoi. C'est d'abord, on fait une offre moins chère avec des pubs, et puis finalement, l'offre moins chère elle devient au prix de l'offre la plus chère, et puis l'offre la plus chère elle devient encore plus chère. Ça m'a l'air assez standard comme stratégie.
Ce qui pourrait arriver, parce qu'on parle de l'IA, et l'IA, quand elle va arriver sur les smartphones, ça a coûté de l'argent. Aujourd'hui, Samsung a de l'IA sur son smartphone, ça coûte beaucoup d'argent parce que c'est des processeurs derrière.
Pardon, je pense que ça va être ça 2025.
Et Samsung a dit peut-être que l'IA, les services d'IA seront payants. Et peut-être qu'un jour, on dira, au lieu, si vous voulez pouvoir retoucher vos photos avec de l'IA, il faut accepter la pub sur votre écran d'accueil.
Eh bien, merci à tous les trois. Merci. Yacine Yachak, donc cofondateur et PDG de Wiseir. Marion Moreau, journaliste fondatrice d'Ornorm Media, donc newsletter sur la géopolitique, sur la tech, avec Pierre Aski notamment. Et Jérôme Marin, fondateur de la newsletter cafetech.fr. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.